Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Sur Radio Saint-Ferréol 94.2, l'émission qui compte. Avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Nous sommes au mois de février, le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas vous raconter des histoires d'amour. J'ai choisi un autre sentiment qui est peut-être proche de l'amour, mais pour certains, il en est quand même très différent. L'amitié. L'amitié, l'attirance réciproque entre deux personnes n'appartenant pas à la même famille. Les couples d'amis célèbres sont nombreux. Achille et Patrocle dans l'Antiquité grecque, Montaigne et la Boétie, Gédon dans le désordre, dans la littérature aussi, Tintin et le capitaine Haddock, Spirou et Fantasio, les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas qui sont quatre, et puis plus récemment l'amie prodigieuse. Et dans les personnes qui ont vécu, Balzac et Hugo, Churchill et Charlie Chaplin. Suivant une citation de La Fontaine, « Chacun se dit ami, mais fou qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. » Et c'est vrai que les vrais amis sont rares, les faux amis sont nombreux. Stendhal se rappelait continuellement au souvenir de ses amis, afin de ne pas permettre à l'herbe de pousser sur le chemin de l'amitié. Je vais commencer par une brève histoire que m'a suggérée une amie conteuse, Nathalie, que je remercie, qui s'appelle « Les trois passoires ». Cette histoire se passe dans la Grèce antique. Socrate avait une grande réputation de sagesse. Sa méthode consistait à poser des questions à son interlocuteur de façon à le mettre sur le chemin de la vérité. Et voilà qu'un jour, quelqu'un vient voir Socrate et lui dit « Oh là là, Socrate, si tu savais ce que j'ai appris sur ton ami Criton !» Socrate lui dit « Attends, attends, avant que tu me racontes ce que tu as à me raconter, j'aimerais te faire passer un test, le test des trois passoires. » « Les trois passoires ? » ?»« Oui. » Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce qu'on dit. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ou non ? Non, c'est quelque chose que j'ai entendu dire, c'est tout quoi. Très bien, donc pour le premier test, tu ne sais pas si c'est la vérité. Maintenant, on va essayer de filtrer ce que tu as à dire avec la deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux me dire sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bien pour lui ? Ah non, non, au contraire ! Donc, tu veux m'apprendre de mauvaises choses sur mon ami et tu n'es pas sûr qu'elles soient vraies. C'est pas très prometteur. Mais il te reste encore une chance, la troisième passoire. Celle de l'utilité. Es-tu utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ou dit ? Utile ? Non, pas vraiment, non. Je vois pas en quoi ce serait utile. Alors, conclut Socrate, ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile. Pourquoi vouloir me le dire ? Et maintenant, partons à Bagdad. Du temps où Bagdad s'appelait encore la cité de la paix, deux commerçants liés par une amitié profonde y vivaient. Ils s'appelaient Temur et Ishak. Enfin, ils avaient grandi ensemble dans les rues de la ville, ils avaient joué, ils étaient allés à l'école, assis sur le même banc. Plus tard, ils étaient voisins, ils avaient ouvert chacun un commerce, ils s'étaient mariés et ils se voyaient tous les jours. Maintenant, c'était leurs enfants qui jouaient ensemble dans les rues de la ville. Ishak avait épousé une fille de Bassora. Et au fil des années, celle-ci, voyant ses parents vieillir sans qu'elle puisse leur rendre visite régulièrement, a conçu le désir de retourner dans sa ville natale. Donc chaque jour, elle pressait son mari de déménager, d'aller s'installer à Bassora où il pourrait ouvrir un commerce. Ishak n'avait pas très envie de quitter Bagdad et de quitter son ami d'enfance, mais au fil des jours, sa femme a tellement insisté qu'il a fini par accéder à son désir. Il a dit adieu à son ami, il est parti pour Bassora avec toute sa famille. Là, il a ouvert un nouveau commerce. Les années ont passé, chacun des deux marchands, l'un à Bagdad, l'autre à Bassora, menait ses affaires du mieux qu'il pouvait. Mais voilà, alors que les affaires de Temur, celui qui était resté à Bagdad, ont prospéré, et qu'il est devenu de plus en plus riche, très riche même, par contre, celles d'Ishak à Bassora ont périclité, et bientôt, la roue du destin a tourné et il s'est retrouvé complètement démuni. Il n'avait plus de quoi se vêtir ni vêtir ses enfants et même plus de quoi se nourrir. Et un matin, la femme d'Ishak a dit à son mari, « Mais écoute, tu devrais retourner à Bagdad et demander à ton ami. Peut-être que lui a eu de meilleures affaires que les tiennes et sûrement, s'il peut t'aider, il le fera. » D'abord, Ishak a refusé, il avait sa fierté, mais voyant ses enfants pleurer de faim, sa famille dans la misère, il a fini par capituler. Il est parti pour Bagdad. Il s'est rendu directement chez Temur. Il a frappé à la porte et c'est Temur en personne, son ami d'enfance, qui a ouvert. Temur a vu sur le seuil son ami d'enfance qui était maigre à faire peur, vêtu de haillons, et au lieu de le serrer dans ses bras, il lui a fermé la porte au nez. Le retour d'Ishak à Bagdad a été terrible, parce qu'à la misère s'ajoutait le chagrin, la douleur de l'amitié trahie. Il est rentré chez lui et il a raconté à sa femme ce qui s'était passé. Il a dit, voilà, il y en est assis des hommes. Ceux qui t'aiment quand tout va bien, eh ben, ne te reconnaissent plus quand tu n'as plus rien. À Bassora, la vie a continué, Kaaka, toujours aussi misérable. Mais peu de temps après la visite d'Ishak à Bagdad, un soir, à la tombée de la nuit, on a frappé à la porte. Un peu inquiet, Ishak est allé ouvrir. Sur le seuil, il y avait une jeune femme voilée de noir qui portait un sac apparemment assez lourd. Ishak l'a fait entrer, elle a expliqué « Mon mari vient de mourir, il m'a laissé en héritage tous ces bijoux précieux, là. Ils sont dans ce sac. Moi j'ai besoin d'argent, je ne sais pas comment ni à qui les vendre. Je connais ta réputation d'honnête commerçant, je te les confie, tu les vendras pour moi et ensuite nous partagerons les bénéfices. » La jeune femme avait l'air de confiance et les bijoux étaient très beaux. Ishak a accepté. Les jours suivants, il s'est mis en quête d'acheteurs. Rapidement, il a vendu tous les bijoux. Et quand la jeune femme est revenue le voir, ils ont partagé l'argent comme convenu. Ishak avait gagné dans l'opération une somme importante. Il a pu acheter des provisions pour plusieurs mois, des vêtements pour toute sa famille et aussi des babioles qu'il vendait maintenant sur un petit étal au marché. La famille était toujours pauvre, mais au moins, ils mangeaient à leur faim. Une semaine plus tard, à la tombée de la nuit, c'est un jeune homme qui est venu frapper à la porte. Il a expliqué, voilà, à l'occasion d'un pari, j'ai gagné une cargaison de tapis en soie de Chine. Il y en a plusieurs centaines et je ne sais pas quoi en faire. On m'a parlé de toi comme un commerçant honnête et avisé. Si tu peux les vendre, eh bien, nous partagerons les bénéfices. Ishak ne croit pas ses oreilles, c'est la chance maintenant qu'il vient de nouveau frapper à sa porte. Ça y est, la roue de la fortune a tourné une nouvelle fois. Les tapis étaient de qualité et en une semaine, il a tout vendu. Il a donné son dû au jeune homme. Maintenant, il avait de quoi faire réparer sa maison. Il a organisé un festin pour toute sa famille et il a acheté une échoppe dans un quartier commerçant de la ville. Le voilà à l'abri des soucis. Trois semaines plus tard, voilà qu'on frappe au corps, au lever du jour. Ishak, maintenant, n'est plus inquiet, il croit à sa bonne fortune, il va ouvrir. Et sur le seuil, il y a un jeune homme. Le marchand le fait entrer. Et le visiteur explique « Mon père est mort. Et il m'a laissé des brocarts de soie, des tapisseries. Moi, je ne sais pas trop quoi en faire, il y en a tellement. Alors, En plus, je voudrais faire des travaux, j'ai besoin d'argent. Et toi, tu es un commerçant honnête, tu pourras les vendre pour moi et on partagerait l'argent. Ishak a accepté. Brocart de soie et tapisserie, il les a transférés dans sa boutique. Et là, les acheteurs ont afflué et les bénéfices étaient considérables. Après le partage, Ishak se retrouve maintenant à la tête d'une fortune conséquente. Il peut acheter des marchandises de qualité pour sa boutique, les affaires vont bien, elles deviennent même de plus en plus prospères, aussi prospères que lorsqu'il était commerçant à Bagdad. La vie est douce, matériellement, tout va bien, sa femme et ses enfants sont heureux, mais dans le cœur d'Ishak, la blessure de l'amitié trahie suinte toujours. Un matin, il dit à sa femme, j'ai bien envie de retourner à Bagdad, là, retrouver mon ami d'enfance et lui dire ce que je pense de sa trahison. Vas-y, lui dit sa femme, qui se rend compte de comme cette l'attitude de Temur a peiné Ishak. Ishak se met en route, il arrive devant la maison de Temur à Bagdad, il frappe, c'est son ancien ami qui vient lui ouvrir. Il ouvre les bras pour le serrer contre lui, mais Ishak recule et lui dit « Ne fatigue pas à me fermer la porte au nez, je ne suis pas venu en ami. Parce que quand j'avais rien et que je suis venu là, tu m'as claqué la porte au nez et maintenant je viens pour mettre un point final à notre amitié. » « Écoute, lui dit Temur, avant de clore notre histoire, je te demande juste de rentrer un tout petit peu chez moi. J'ai quelque chose à te montrer. » Ishak rentre. Là, dans la salle, il voit deux jeunes gens et une jeune fille en train de boire le thé. Elle les reconnaît. Ce sont les deux jeunes gens et la jeune fille qui sont venus lui proposer des marchandises à vendre. Alors il regarde Temur, stupéfait. Et l'ami lui dit en souriant, « Quand tu es venu chez moi la première fois que je t'ai vu sur le seuil, misérable à Ayon, j'ai eu le cœur déchiré de te fermer la porte au nez, mais je ne voulais pas te donner l'aumône, comme à un mendiant qui fait pitié. Notre amitié n'y aurait pas résisté. Plus tard, je t'ai envoyé mes enfants avec de la marchandise à vendre, et c'est toi qui t'es chargé de ça, c'est toi, si tu as fait fortune, c'est grâce à toi, grâce à tes talents de commerçant. Tu ne me dois rien, et notre amitié peut continuer comme avant. » Les deux marchands sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Et les années suivantes, ils ont cultivé leur belle amitié en se rendant régulièrement visite. Et seule la mort a pu les séparer. Maintenant, une histoire qui se passe dans le grand désert du Sahara. La caravane avait marché toute la journée. Les chameaux portaient leur lourde cargaison, la tête haute vers l'horizon. Puis le chef de la tribu a ordonné l'arrêt. Tout le monde s'est activé pour préparer le campement, dresser les tentes de toile et de peau. Le soir tombait, les chameaux étaient nerveux. L'horizon s'est teinté d'une vilaine couleur ocre. Et tout à coup, la tempête de sable s'est déchaînée, le sable s'insinuait partout, le vent hurlait. Et dans une des tentes, il y avait deux femmes, veillées par la vieille Zora. Ces femmes étaient en train de mettre au monde leur premier enfant. Et tandis que les hommes et les animaux luttaient contre les éléments, elles criaient, mais leurs cris étaient couverts par le mugissement du vent. Et au matin, le calme était revenu. Et deux beaux petits garçons dormaient contre leur maman, apaisés. D'avoir vécu leur accouchement l'une à côté de l'autre, les deux femmes en sont restées amies pour la vie. Elles étaient toujours ensemble et elles allaitaient indifféremment l'un ou l'autre des bébés, bébés qui se nommaient Irgen et Imar. Alors, est-ce que c'est à cause du lait partagé au même sein que Irgen et Imar sont devenus inséparables? Ils étaient plus inséparables, si c'est possible, que des jumeaux. Et pourtant, ils n'avaient pas du tout le même caractère. Autant Jürgen était doté d'une énergie débordante, toujours à courir partout, à chasser les lézards, taquiner les chameaux, faire mille bêtises. Autant Imar, lui, était un garçon physiquement un peu frêle, rêveur et poète, qui pouvait passer des heures assis à contempler les ombres et les lumières sur les dunes. Mais comme les deux garçons étaient inséparables, eh bien, Jürgen entraînait Imar dans ses courses folles et Imar réussissait à faire tenir Jürgen en place un petit moment pour regarder l'horizon. Et voilà qu'un jour, Jürgen il voulait absolument montrer à Imar une découverte qu'il avait faite. Il l'a entraîné loin du campement jusqu'à une falaise de roches rouges. Et là, il y avait une grotte très profonde. Les deux enfants, très excités, se sont enfoncés dans cette grotte et pris par leur jeu à l'intérieur des rochers, ils n'ont pas vu ce que leurs yeux de petits nomades auraient tout de suite interprété comme un signal de danger. L'horizon, le ciel qui a pris une couleur inquiétante, une couleur ocre. Et tout d'un coup, alors qu'ils étaient au fond de la grotte, il y a eu un sifflement long et continu. Alors ils sont courus à l'extérieur, ils ont regardé. Et là, la tempête s'était déchaînée, plus question pour eux de rejoindre le campement. Le vent et les gifles de sable les auraient cloués au sol. Alors il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était se réfugier au fond de la grotte et attendre que la tempête passe. Ils ont passé toute la nuit, là, serrés l'un contre l'autre, à écouter le vent qui n'en finissait pas de mugir. Ils partageaient à nouveau le trouble de leur première nuit sur Terre, lorsqu'ils sont venus au monde. Le lendemain matin, épuisés par cette nuit sans sommeil, ils sont sortis prudemment de leur refuge. Le calme était revenu. Mais le vent avait balayé toute trace qui leur indiquerait le chemin à suivre. Ils sont mis en marche, mais ils ne savaient pas où aller. Ils ne savaient pas dans quelle direction était le campement. Aguerris par leur vie, leur rude vie dans le désert, ils n'ont pas perdu courage. Ils avaient une gourde pour eux deux. Ils buvaient à toute petite gorgée l'eau et ils marchaient de plus en plus difficilement. Se soutenaient l'un l'autre, et bientôt dans la gourde, il n'est plus resté que très peu, une petite gorgée d'eau. C'était Imar qui portait la gourde. Jürgen a senti sa gorge brûlante. Tout d'un coup, il lui fallait cette eau pour lui tout seul. Il y en avait tellement peu. Alors, il a arraché la gourde à Imar, qui a protesté, qui a dit « Non, Jürgen, cette eau, elle est pour nous deux. » Mais Jürgen lui a balancé une gifle. Puis, horrifié par ce qu'il avait fait, il s'est reculé. Imar l'a regardé sans rien dire. Il s'est accroupi et puis il a écrit sur le sable « Aujourd'hui, mon ami m'a frappé. » Puis il a dit « Viens, Jürgen, continue à marcher. » Jürgen, tout honteux, lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu as écrit ça sur le sable ?» Mais Imar a fait un petit geste de la main, comme pour dire « N'en parlons plus. » Ils ont marché encore. Tout d'un coup, Jürgen a dit à son ami « Regarde, là, il voyait des palmiers. » Des palmiers. Est-ce que c'était un mirage ou la réalité ? Ils ont pressé le pas, c'était bien une oasis. Ils étaient sauvés. Là, entourés de palmiers, il y avait un petit étang d'eau. Ils ont bu jusqu'à plus soif avec délices. Et puis, ils ont plongé dans l'eau, ils sont éclaboussés en riant aux éclats, de nouveau insouciants comme des enfants. Seulement, la lourde marche dans le désert avait épuisé le fragile Imar. La tête lui a tourné, il est devenu livide et il s'est affaissé, évanoui. Jürgen a aussitôt plongé sous l'eau pour sauver son ami, mais lui aussi était fatigué par cette marche et ses épreuves dans le désert. Il n'arrivait pas à soulever le corps inerte de Imar. Plusieurs fois, il a glissé, mais il se disait « c'est mon ami ». Et il a réessayé, il s'est obstiné. Et finalement, avec l'énergie du désespoir, il a réussi à le tirer sur la rive. Après cet effort surhumain, il tremblait tous ses membres, mais il a encore eu le courage de s'occuper de son ami, de faire les gestes que sa mère lui avait appris. Et enfin, après de longues minutes, Emma a ouvert les yeux. Tout joyeux, Jürgen est parti ramasser quelques dattes tombées des palmiers. Il les a glissées dans la main de son ami. Emma a peu à peu retrouvé ses forces. Alors il a pris une pierre pointue et s'est approché d'un rocher et il a gravé ces mots « Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé ». Ils sont restés silencieux un bon moment, assis au bord de l'eau. Puis Jürgen a demandé à Emma « Mais dis-moi, pourquoi t'as écrit dans le sable quand je t'ai frappé et aujourd'hui tu as gravé sur la pierre quand je t'ai sauvé ?»« Bien, tu vois, le vent a déjà effacé les traces sur le sable, la trace du mal que tu m'as fait. Alors j'ai pu l'oublier. Mais par contre, ce que j'ai gravé sur le rocher, ça ne s'effacera jamais. Et comme ça, je n'oublierai jamais le bien que tu m'as fait. » À ce moment, ils ont vu sur l'horizon les silhouettes des chameaux de la caravane. Regarde, regarde mon ami, c'est notre tribu qui arrive. Et une fois de plus, Jürgen et Imar se sont serrés l'un contre l'autre et savaient que leur amitié les protégerait de tout et qu'elle durerait jusqu'à la fin de leur vie.
Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Un simple page ou un pucier ou deux animaux se dépensent. Et quand s'installe la tendresse entre nos corps qui s'apprivoisent, que platoniquement je caresse de mes yeux ta bouche framboise, alors l'amour et l'amitié n'est-ce pas la même romance? Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami. Entre l'amour et l'amitié, ils ont barbelé des frontières. Nos sentiments étiquetés, et si on aime trop sa mère, ou bien son pote, ou bien son chien, il paraît qu'on est en nos troubles, qu'on est cliniquement freudien, ou inverti, ou agent double. Alors que l'amour et l'amitié ont la même gueule d'innocence. Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami. Entre l'amour et l'amitié, la pudeur a forgé sa chaîne. À la barbe du monde entier et de ses gros rires gras de haine. Bon an, mal an, les deux compagnes se dédoublent ou bien s'entremêlent. Comme sur la haute montagne, le ciel et la neige éternelle. Se cache un petit bout d'enfance. Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami.
Lucas a 21 ans. Il aime ses études de mathématiques appliquées, c'est le basket, rouler à moto à tomber ouvert et retrouver ses potes pour s'amuser ou refaire le monde. Il a une petite sœur de 15 ans. Parfois, elle l'agace. Elle a l'art de se fourrer dans des embrouilles et après, elle appelle son frère pour l'aider à s'en sortir. Ouais, parfois, elle l'agace, mais toujours, il l'adore. Et elle le lui rend bien, d'ailleurs. Cette nuit-là, Lucas est dans sa chambre. Il est en train de bidouiller sur ses ordinateurs quand on l'appelle au téléphone. C'est à la petite sœur. Lucas, écoute, j'ai raté le bus, on faisait la fête chez Clara, et j'ai pas vu l'heure. Est-ce que tu pourrais venir me chercher? Et s'il te plaît, tu dis rien aux parents. Lucas empoigne les deux casques sur l'étagère et descend l'escalier sans faire craquer les marches. Pour démarrer la moto, il attend d'avoir passé les portails et fonce dans la ville endormie. Quand il arrive devant chez Clara, l'amie de sa petite sœur, elle sort de la maison en trombe, elle saute derrière lui sur la moto et lui tend un des casques. Et attache-le, hein. Ah, il connaît sa manie d'enlever le casque pour sentir le vent dans ses cheveux. Pour revenir, on passe par la forêt, s'il te plaît. La moto slalome sur la route, la petite sœur collée contre le dos du grand frère. Un virage, deux virages, et puis les sapins comme de grandes ombres menaçantes. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y a un arbre qui a dû bouger. La moto s'est encastrée droite dedans. Lucas a été éjecté d'un côté, la petite sœur de l'autre. Quand on les a retrouvés, lui était juste commotionné. Quelques égratignures, presque rien. Elle, ses cheveux formaient une auréole autour de son visage tout pâle. Le casque avait volé loin. À l'enterrement de sa petite sœur, devant la tombe ouverte, Lucas sent son cœur qui va éclater. Puis une douce chaleur l'enveloppe comme la chaleur d'un rayon de soleil. À côté de lui, il y a une fille. Une fille en t-shirt et pantalon gris avec un drôle de sac à dos et des yeux gris pailletés d'or. Elle lui sourit. Il se sent mieux, un peu. Après l'enterrement, il est parti. Pour une ville qu'il ne connaissait pas, où il ne connaissait personne, où personne ne le connaissait. Il a trouvé du travail en intérim, c'était facile, il était prêt à apprendre n'importe quoi, il était jeune et costaud. Le soir, il marchait, par les rues, ne pas penser, marcher, ne pas penser, marcher. Un soir, il arrive sur un pont. Dans l'eau, il y a des algues qui dansent comme de longs cheveux qui s'en mêleraient. Au moment où Lucas allait enjamber le parapet, il a senti la chaleur d'un rayon de soleil. Elle est encore froide en cette saison. Venez, allons plutôt boire un café. À côté de lui, il y avait la fille. La fille avec le t-shirt, le pantalon gris, le drôle de sac à dos et les yeux gris pailletés d'or. Lucas l'a suivi jusqu'à un café qui s'appelait Les Amis. Là, pour la première fois, il a parlé de sa petite sœur. Il a pleuré. Elle l'a écouté et ses yeux gris semblaient tout comprendre. Lucas est allé mieux un temps. Puis un jour, au moment où il allait traverser la rue, il y a une moto qui est passée à toute vitesse. Derrière le conducteur, il y avait une fille qui se serrait contre lui et dessous son casque, ses cheveux flottaient derrière elle comme un drapeau. Lucas a fermé les yeux. Il allait se jeter sur la chaussée au moment où un camion arrivait. Mais à ce moment, il s'est senti tiré en arrière. Il y avait autour de lui la chaleur, la douceur d'un rayon de soleil. Il a ouvert les yeux. Il y avait la fille. La fille avec le t-shirt, le pantalon gris, le drôle de sac à dos et les yeux gris pailletés d'or. Vous n'avez pas l'air bien réveillé. Venez, allons plutôt boire un café. Il a suivi jusqu'au café Les Amis. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus amis. Lucas et Angela. Il ne savait pas grand-chose sur elle, sauf qu'elle travaillait dans un bureau d'aide sociale. Ils se voyaient régulièrement dans ce café et ils discutaient. Enfin, c'était surtout lui qui parlait. Ce jour-là, Angela a rendez-vous avec sa chef. Elle entre dans le bureau, l'autre est derrière son bureau, imposante, elle lui tend un dossier. « Ah, Angela, tenez, Paul Desnoyers, voici votre nouveau protégé. Il doit se jeter sous un train aujourd'hui à 18h12, vous avez juste le temps d'y aller. » « Comment ? Mais, et Lucas ? Lucas ? Quel Lucas ? Lucas Verso ? Hein, quoi ? Ah, celui-là, mais vous l'avez déjà sauvé deux fois. Vous savez bien qu'ils n'ont pas droit à plus. Et puis, Lucas va très bien, il n'a plus besoin de vous. » Mais si, pour Angela, Lucas a besoin d'elle. Il aura toujours besoin d'elle. Et elle, elle a besoin de Lucas. Eh bien, si c'est comme ça, je démissionne. Quoi ? Vous n'y pensez pas. Vous allez perdre les paillettes dans vos yeux. Vous allez vieillir, mourir. Puis moi, j'ai personne à mettre sur ce Paul Desnoyers. Écoutez, soyez gentille. Occupez-vous-en. Ça vous laissera le temps de réfléchir. Vous pourrez toujours démissionner après. À contre-cœur, Angela attrape le dossier. Elle soupire. Elle sort du bureau, mais il faut qu'elle prévienne Lucas. Ils ont rendez-vous. Et il n'a plus de téléphone depuis l'accident. Et s'il la voit pas, il peut faire n'importe quoi. Elle se précipite dans le bar, les amis. La salle est déserte. Il y a juste au fond une jeune fille en t-shirt orange, jupe à fleurs, qui est en train d'écrire dans un carnet. Angela s'approche d'elle. Elle lui demande si elle va rester encore un moment. Oui, la jeune fille n'est pas pressée. Et pour remettre un message à un jeune homme, mais bien sûr, pas de problème. Angela écrit vite quelques lignes pour Lucas, puis elle s'envole, sauver Paul Desnoyers. Elle revient. Elle revient au bureau. Elle entre dans le vestiaire. Elle enlève le t-shirt, le pantalon gris, après avoir décroché son sac à dos et les ailes qui étaient dans son dos. Elle met un jean, un corsage bleu, et elle saute dans le grand tunnel blanc. Elle entend « Angela ! Angela ! » Ce sont les voix de tous ceux qu'elle n'a pu sauver, qui l'appellent depuis l'au-delà. Elle se retrouve dans un jardin. Un jardin public où elle s'est promenée tellement de fois avec Lucas. Les couleurs lui paraissent éclatantes. Le vert de la prairie, les fleurs, le rouge. Elle court, le soleil lui caresse le visage. Elle est heureuse. Elle rentre dans le café. Lucas n'est pas encore là. La fille n'y est plus. Est-ce qu'elle lui a remis le message ? Angela commande un café, s'il vous plaît. Lorsque le café arrive, elle en sent le parfum. Elle boit une gorgée. Cette gorgée-là est douce, comme l'amour. Et soudain, derrière la vitre, elle voit Lucas. Il tient par la taille la fille en t-shirt orange avec la jupe à fleurs. Il la tire contre lui. Il l'embrasse. C'est un long, un très long baiser. Puis il s'écarte l'un de l'autre. Lucas aperçoit Angela et lui fait un petit signe. Il s'approche en tenant la fille par la main. « Angela, je te présente Marguerite. Marguerite, c'est Angela, tu sais, je t'ai déjà parlé d'elle. C'est la fille qui m'a sauvée deux fois. C'est ma meilleure amie. » Comme dans un rêve, Angela sourit. Elle boit une gorgée de café pour se donner une contenance. Cette gorgée-là est amère, comme la mort. Puis elle prétexte qu'il est tard, qu'elle a affaire. Elle sort du café, elle marche. Ne pas penser, marcher, elle arrive sur un pont. Dans l'eau, il y a des algues. « Angela ! Angela !» Ce sont les voix de tous ceux qu'elle n'a pas sauvés et qui l'appellent depuis là-haut. Au moment où elle va enjamber le parapet, elle sent comme la chaleur d'un rayon de soleil. Elle est encore froide en cette saison. Venez, allons plutôt boire un café. À côté d'elle, il y a un jeune homme en t-shirt et pantalon gris, avec un drôle de sac à dos et des yeux gris pailletés d'or. Histoire des deux jeunes gens qui avaient résolu de s'inviter à leurs noces. Il y avait deux jeunes gens, Erwan et Corentin, qui étaient très amis. On les voyait presque jamais l'un sans l'autre. Ils s'aimaient plus que des frères. Un soir où ils revenaient d'une virée bien arrosée, ils se sont fait la promesse solennelle de s'inviter, vivants ou morts, à leurs noces. Et malheureusement, est-ce que c'est cette promesse qui a pas attiré la chance sur Corentin parce que la semaine suivante, il est mort dans un accident. Erwan en a eu évidemment beaucoup, beaucoup de peine. Et le temps a passé et voilà qu'Erwan s'est fiancé. La date de la noce a été arrêtée. S'en rappelant sa promesse, il s'est rendu au cimetière sur la tombe de Corentin. Là, il l'a appelé à grands cris et lui a dit « Je vais me marier et il faut que tu sois mon garçon d'honneur comme on s'était promis. » Corentin est apparu. Est apparu semblable au garçon vif et joyeux qu'il avait été. Et il a promis de se rendre au mariage et même de conduire la fiancée à l'hôtel. Le jour de la noce est arrivé. Le mort est arrivé à la maison de la jeune fille. Mais personne ne le voyait, sauf la future épousée et son mari, son futur mari. Il était invisible pour tous les autres. Tout le monde se demandait, mais comment ça se fait que, contrairement à l'usage, personne ne conduise la mariée à l'hôtel? Les noces, malgré cela, ont été joyeuses. Quand chacun s'est retiré, le garçon d'honneur, Corentin, est reparti pour le pays des morts. Mais avant de repartir, il a dit à son ami que si lui-même se mariait là-bas, il viendrait le chercher pour qu'il soit de la noce. Et quelques temps plus tard, le mort est revenu. Il a trouvé son ami Erwan, il lui a dit « Voilà, je vais me marier, je veux que tu sois mon garçon d'honneur. À la nuit tombée, dans 10 jours, rends-toi dans la petite ruelle qui est derrière le cimetière. Quelqu'un t'attendra pour te conduire au mariage. » Le jour venu, Erwan, qui était un peu à la fois intrigué de ce qu'allait se passer, quand même un petit peu inquiet, s'est rendu au rendez-vous dans la ruelle derrière le cimetière. Là, il n'y avait personne, mais une petite jument blanche qui l'attendait. Il est monté sur son dos et aussitôt, elle est partie comme une flèche. Elle a mené son cavalier à travers les landes et les forêts, dans des paysages qu'il ne reconnaissait pas, et elle allait tellement vite que de toute façon, il n'avait le temps de rien voir. Enfin, elle s'est arrêtée après une course haletante, toute couverte de sueur. Le mort était là. Il attendait son ami et il l'a conduit au lieu de la fête. Il lui a présenté sa future épouse. Les noces ont été célébrées très joyeusement. Ça a duré pendant 3 jours. Ensuite, Erwan a pris congé de Corentin. Il a remonté sur la petite jument blanche qui a démarré comme une flèche. Et ils ont traversé landes et forêts, forêts et landes. Ils sont arrivés dans le pays d'Erwan. Mais ils ne reconnaissaient plus vraiment les choses. Puis dans son village, mais personne ne le reconnaissait, les gens étaient habillés très bizarrement, et soudain la jument s'est arrêtée devant sa porte de sa maison, mais les arbres étaient énormes, des arbres qui étaient tout petits. Pourtant, pour Erwan, il s'était écoulé 3 jours. En fait, 300 ans avaient passé. Sa femme, ses enfants, tout le monde était mort depuis bien longtemps. Et quand Erwan est descendu de cheval, quand son pied a touché le sol, ses cheveux sont devenus tout blancs, son visage s'est ridé, sa barbe s'est allongée. Il a vieilli de 300 ans d'un seul coup et sans doute qu'il en est mort. Et terminons par une courte histoire que vous allez peut-être reconnaître, même si la fin est un peu différente. Il y avait une fois une petite oie blanche qui avait mal à la tête. Pour se guérir, elle a décidé d'aller à Servières. Pourquoi à Servières? À vrai dire, je n'en sais rien, l'histoire ne le dit pas. Peut-être y avait-il là-bas une source miraculeuse. Toujours est-il que la voilà en route par les chemins pierreux, montant vers les montagnes. Soudain, dessous un buisson sort un menu petit chat, tout noir, noir comme la nuit, noir comme la nuit la plus noire. Il ôte gentiment son chapeau, salue la petite oie et lui dit « Bien le bonjour, mamie l'oie, et où tu vas comme ça ?»« « Bonjour, menu chat noir. Je m'en vais à Servières soigner mon mal de tête. Veux-tu que je t'accompagne ? J'ai envie de changer d'air. »« Eh ben oui, comme tu veux. » Et voilà les deux petits repartis sur la montée pierreuse. Ils rencontrent un peu plus loin un joli mouton frisé qui leur dit, avec une grande révérence, « Bien le bonjour, les deux petits. Déjà en route de si grand matin, où est-ce que vous allez comme ça ?» Petite mamie Loire répond, « Moi, je vais à Servières soigner mon mal de tête. Et menu chat noir, lui, il m'accompagne pour changer d'air. Et toi ?»« Ben moi, je veux bien que je bien marcher avec vous autres. »« Ah ben, à ta plaisance, ronronne menu chat noir. » Et voilà parti, tous les trois. Et ils montent vers Servières. Menu chat noir, petite mamie Loire et mouton frisé. Ils passent devant un grand pré où broute une belle petite génisse prête à veller. La génisse lève le nez par-dessus la haie et elle demande poliment « Bien le bonjour les trois bestiaux. La montée est dure, arrêtez-vous donc vous reposer un peu dans mon pré. » « Ah, c'est pas de refus. » La conversation s'engage. « Où donc allez-vous comme ça ?» demande la génisse prête à veller. « Génisse prête à veller, » dit Mamie Loire. « Moi, je m'en vais à Servières pour soigner mon mal de tête. Menu chat noir m'accompagne pour changer d'air et mouton frisé pour nous faire la compagnie. Ah, »« Voulez-vous que je fasse le chemin avec vous ?» demande la génisse. « Comme ça, on sera quatre. » C'est un grand honneur pour nous, bel mouton frisé. Ah, comme il te plaira, brave génisse prête à veller, miaule le chat. À la tombée de la nuit, ils arrivent devant une petite maison. Ils sont un peu inquiets, ils ont peur que le loup les mange pendant la nuit, ils voudraient bien trouver un abri. La maison, oh là là, c'est pas un château loin de là. Hein. Ils regardent, ils s'approchent, ils regardent par la fenêtre où brille une lumière. Qu'est-ce qu'ils voient ? Un lit bien douillet, avec une courte pointe rouge, des oreillers bien gonflés. Ils voient un maigre feu dans la cheminée et devant une petite vieille qui se balance et qui parle toute seule. « Ah là 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 ! Ah là 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 ! Dire qu'il y en a qui peuvent manger du lard tous les jours et qui se plaignent. Ah mais moi j'ai rien. J'ai même pas une chèvre pour avoir du lait. J'ai même pas une poule pour me donner des œufs. Et j'ai même pas un mouton pour me donner de la laine. Je suis obligée de porter mes vieux chandails tout troués. Et j'ai froid. Et je suis seule. Et j'ai même pas quelqu'un à qui raconter mes ennuis. Ah, toute seulette, je demeure. Si seulement j'avais un chat, je le gratterais derrière les oreilles. Ah, ce que ce serait bien. Ah là là, la vie est trop longue pour moi. Dors, petite mamie Loire, menu chat noir, mouton frisé, génisse prête à veiller, ouvrent grand leurs oreilles. Tout à coup, petite mamie Loire dit, bah finalement, j'ai plus mal à la tête. Entrons donc. Elle lève une patte, elle gratte à la porte. « Entrez donc !» dit la vieille, toute ragaillardie à l'idée d'avoir de la visite. « C'est si rare !»« Bonjour, madame !» dit menu chat noir en ôtant poliment son bonnet. Il s'éclaircit la voix en tout sautant, pendant que mamie Loire arrange sa tenue, que mouton frisé essuie ses yeux et que génisse prête à veiller et tend l'oreille parce qu'elle, elle reste dehors pour ne pas salir la maison. Dit le chat, voilà, nous sommes quatre amis qui avions résolu d'aller à Servières, mais le chemin est long et la nuit aussi noire qu'un bout de feutre noir. Si vous nous donnez à coucher, mamie Loire pourrait aller dans le poulailler, belle génisse et mouton frisé dans l'étable, et moi je pourrais rester à vous tenir compagnie. Et cela pourrait durer aussi longtemps que le bon Dieu nous prêtera vie. Voulez-vous ? Bah, si la vieille le voulait. Elle a embrassé mouton frisé, elle a gratté le front de la brave génisse, elle a conduit mamie Loire dans le poulailler, l'a menée coucher, qui dans l'étable, qui dans le poulailler, elle a pris menu chat noir dans son tablier, et elle lui a chanté pour l'endormir sa plus belle chanson. Et ils ont vécu, tous ensemble, bien contents. La vieille n'a plus jamais eu faim ni froid, puisque maintenant elle pouvait tricoter la laine du mouton. Elle avait des œufs et elle avait du lait. Petite mamie loin n'a plus jamais eu mal à la tête. Et personne n'a plus parlé de monter vers Servières. Les références de nos contes d'aujourd'hui, les trois poissoirs racontés par Platon, les deux amis de Bagdad en praline Guépara, les contes curieux aux éditions Babel. Le conte du Sahara dans les contes nomades de Catherine Gendrin aux éditions Rue du Monde. Angela, une création personnelle qui est une relecture de La Petite Sirène d'Andersen. Les deux amis qui avaient juré de s'inviter à leurs noces, Paul Sébillot, légende chrétienne de la Haute-Bretagne. J'ai trouvé cette version dans La Grande Oreille numéro 40. Et Les Quatre Compagnons, Geneviève Massignon, de bouche à oreille aux éditions Corti. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est fini pour ce mois-ci. Je vous souhaite une bonne écoute et nous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles histoires.